Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 1. I think I mentioned it earlier, but we will be in John chapter 1 this morning. The goal is going to be to get through verses 15 through 39. Not quite sure we're going to be able to do it, but we'll see how it goes. L'Évangile de Jean, chapitre 1. Chapitre 1. Voilà, le premier chapitre. Et nous allons essayer de voir les versets 15 jusqu'au verset 39. On va voir si on arrive. J'ai peut-être vu un peu trop. J'étais trop optimiste. Nous allons voir avec le temps que Dieu nous donne. Jean chapitre 1, à partir de verset 15, permettez-moi de lire ces versets. Suivez avec moi. Donc, à partir de verset 15 jusqu'au verset 39, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 15. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu ? » ?»« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Prions pour demander l'aide de Dieu ce matin. Oui, Seigneur, nous venons de nouveau vers toi, nous demandons ton aide pour comprendre. Éclaire-nous par ta puissance, que tu continues cette œuvre que tu as commencée en nous, si nous te connaissons par la foi. Et Seigneur, que tu puisses agir puissamment à travers nous, qu'aucun obstacle vienne empêcher cela, et ainsi que tu sois glorifié dans notre vie. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Vous l'avez compris, un long passage, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et nous allons essayer de voir tout ce passage ce matin. Il se peut qu'on soit obligé de reprendre un peu quelques éléments la semaine prochaine. Mais souvenons-nous que nous sommes dans cette série de découvertes en ce qui concerne Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, nous voyons cette découverte de Jésus-Christ, un personnage que je suis convaincu la plupart d'entre nous connaissent assez bien. Et pour nous, malgré cette connaissance que nous avons, il faut un rappel. Il faut peut-être une découverte de nouveau de Jésus-Christ. Parce qu'avec toutes les infos que nous avons autour de nous, avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que peut-être nous avons reçu, parfois à cause de notre arrière-plan, à cause de choses que nous avons écoutées ou lues, il se peut que des éléments non bibliques se soient glissés dans notre compréhension de Jésus-Christ. Et même si ce n'était pas le cas, même si notre compréhension de Jésus-Christ était tout à fait exacte, il nous faut être capables, comme Jean fait dans ce passage, de pouvoir diriger les gens vers ce Jésus que nous connaissons. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Alors, cette découverte de Jésus est quelque chose d'important. Ne pensons pas que je connais déjà. Alors passons à autre chose qui soit plus intéressant ou autre, que sais-je. Non, c'est quelque chose de très important, la base. Si nous nous trompons en ce qui concerne Jésus-Christ, si nous minimisons Jésus-Christ, tout va s'écrouler. Nous revenons au verset 15, au début de ce passage, parce que un mot va revenir deux fois vers le début de ce passage. Et au verset 15, nous lisons « Jean lui a rendu témoignage ». Ce mot va revenir au verset 19. Voici le témoignage de Jean. Et vous avez compris qu'à travers ce passage, Jean, qu'est-ce qu'il fait ? Son but, c'est de témoigner. Mais comment est-ce qu'il s'y prenne sur le plan pratique ? Qu'est-ce que Jean, lui, il fait ? Et globalement, on va définir cela par diriger les gens vers Jésus. Parce qu'on va venir vers Jean avec des questions, n'est-ce pas ? Et ça, nous voyons. Et aujourd'hui, il est possible que les gens viennent vers nous s'ils savent que nous sommes chrétiens, s'ils savent que nous allons à l'église, et ils vont venir nous poser des questions. Et parfois, ça va être des questions sur tout, sur la science, sur peut-être la Bible, peut-être sur Dieu, les choses religieuses. Et la tentation sera là pour nous de commencer à essayer de répondre à toutes ces questions et finalement passer à côté de l'élément le plus important, qui est Jésus-Christ. Alors, qu'il soit dit clairement au début, répondre aux questions des gens n'est pas mauvais en soi. Non, il faut que les gens aient des réponses. Même Jésus, quand on venait vers lui avec des questions, parfois il donnait des réponses. Mais pas toujours. Et Jean, ici, il va quand même apporter une sorte de réponse. Mais quel sera son objectif ? Parce qu'on vient vers lui. Mettons-nous à la place de Jean. Ici, il est question de Jean-Baptiste, comprenons bien. Jean-Baptiste qui attirait des foules à lui. Quelque part, j'aurais aimé être à la place de Jean-Baptiste. Hein? Des foules qui arrivent, ils sortent de leur ville confortable pour aller dans un lieu désert. Hein? Et là, ils vont voir Jean-Baptiste qui baptise. Donc, toutes ces personnes viennent et je me mets à la place de Jean-Baptiste et je me dis, ce serait formidable. Ces foules qui sont là, ils sont là pour m'entendre en plus. Et la tentation pour Jean aurait pu être, je vais profiter, je vais peut-être glisser quelques mots sur moi-même. Regardez, moi, je suis quelque chose. Toute cette foule qui est là, je prêche bien. Hein. J'annonce la parole. Bien sûr, Jean-Baptiste n'a pas fait cela et il ne l'aurait pas fait. Mais je veux bien croire que la tentation serait là. Et pour nous aussi, imaginons, des foules qui arrivent. Nous avons quelques visiteurs ce matin, gloire à Dieu. Amen. Mais imaginons des centaines de personnes qui viennent nous écouter. Ah, bah, c'est formidable. Et à ce moment-là, la tentation pour nous, peut-être, bah, peut-être je vais mettre l'accent sur moi un peu et mon éloquence, les bons arguments que moi j'ai. Et ne serait-ce qu'une seule personne qui vienne nous parler. Parce que c'est tellement rare ici en France, on se dit, mais une seule personne, voilà, je vais tout faire pour garder cette personne en face de moi et lui parler. Mais finalement, je n'évoque pas Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Jean, lui, il a fait. Il a rendu témoignage, non pas de lui, et vous l'avez bien compris dans ces versets. Ces chefs religieux envoient des personnes poser des questions à Jean. Et qu'est-ce que Jean, lui, il fait ? Ben, il dit, ce n'est pas moi. Vous venez, il est vrai, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas celui que vous cherchez. Je ne suis pas celui que vous croyez que je suis. Et c'est ce que nous voyons à travers le témoignage de Jean. Jean, il a compris que lui, il n'était que le messager. Il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et au verset 15, Jean va commencer cela. Regardez, verset 15. Jean lui a rendu témoignage. C'était quoi ce témoignage ? Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Quoi ? On lit cette phrase et parce que nous la connaissons, nous comprenons de quoi il s'agit. Mais Jean est en train de dire... Celui qui va venir après moi, c'est-à-dire dans le temps. Bien sûr, Jésus vient après Jean. Jean, il a à peu près 6 mois de plus que Jésus. Et Jean dit, bah, il vient après moi, il est vrai, mais en fait, il était avant moi. Il était avant moi. Pourquoi ? Bah, parce que, là, nous allons vers la fin de ce passage, verset 34, j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et Jean, lui, il avait compris que son but n'était pas de se faire le plus grand possible, n'était pas d'attirer les plus grandes foules possibles pour lui. Non, c'était de diriger les gens vers Jésus. Et cela passait par une compréhension de qui est Jésus. Fils de Dieu. Jean également va à 2 reprises appeler Jésus l'agneau de Dieu. Agneau veut dire sacrifice. À cette époque, vous aurez parlé à n'importe quel juif et vous aurez prononcé le mot agneau. La première pensée d'un juif serait sacrifice, serait temple, serait la mort. Et quand Jean dit Jésus, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi l'agneau. Tout de suite, les gens, ils auraient pensé, non pas forcément compris, mais ils auraient dit, mais ça veut dire Jésus, il se sacrifie. Oui. Et pour nous aujourd'hui, quel doit être notre but ? Ce n'est pas de dire, moi, j'ai une telle foule devant moi, j'ai tant de personnes auxquelles j'ai témoigné, j'ai fait tant... Cela est bien, comprenons bien. Il faut témoigner, il faut avoir des personnes auxquelles nous parlons. Mais quel est le but ultime ? Qu'on parle de moi, qu'on me voit moi ? Non. Comme Jean, notre but doit être de diriger les gens vers Jésus. Et cela passe par une compréhension de Jésus. Donc... Fils de Dieu, agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui se sacrifie, celui qui est capable aussi de sauver. Parce qu'encore une fois, si Jésus n'est pas Dieu, le salut est impossible. Alors Jésus vient avant Jean. C'est normal parce qu'il est Dieu. Il existe depuis toute éternité. Et ici, dans ce verset 15, lorsque nous y revenons, « Car il était avant moi », Jean renvoie au verset 1, « La parole a été faite chair », au commencement était la parole, là je citais verset 14, verset 1, « La parole a été, la parole était avec Dieu », au commencement était cette parole, la parole est Dieu, au commencement, Et Jean, lui, Jean-Baptiste, il a très bien compris que son but, ce pourquoi il était là, était de diriger les gens vers Jésus. Et finalement, au verset 19, c'est cela qui lui permet, lorsqu'on vient un peu le confronter, on vient le questionner. Verset 19, voici le témoignage de Jean. Donc, de nouveau, témoignage. Il apporte la lumière du Christ. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ?» Et si aujourd'hui, on devait nous poser la question, « Mais vous, vous êtes qui ?» Hein? Si on me posait la question, je pourrais dire, « Moi, je m'appelle, je viens de tel ou tel endroit, j'habite tel ou tel endroit, j'ai fait ceci ou cela. » Et cette question qui est posée à Jean, Jean-Baptiste, c'est par rapport à son ministère. Parce que Jean faisait des choses, et apparemment, les gens, les chefs religieux à son époque, ont compris qu'il y avait quelque chose de particulier avec Jean. Les chefs religieux, ils connaissaient de l'Ancien Testament. Ils avaient une connaissance. Et ils se sont dit, mais là, avec Jean, Jean-Baptiste, il y a quelque chose de différent. Il semble qu'il a accompli quelques prophéties. Il est possible que ce soit lui que nous attendons. C'est quand même remarquable que les chefs religieux se soient posé ces questions, qu'ils aient pensé que Jean était peut-être le Messie et qu'ils aient totalement rejeté Jésus-Christ. C'est quand même fou lorsqu'on y pense. Et ici, ils pensent peut-être que Jean est celui qu'ils attendaient le loin, celui choisi par Dieu. Et verset 20. Il, donc Jean, déclara sans restriction, il affirma. Donc il se répète, j'affirme, j'atteste, je le redis encore, c'est comme ça que Jean le dit, qu'il n'était pas le Christ. Alors là, il explique. Il dit, soyons précis, soyons clairs, comprenez bien, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. « Je ne suis pas le Christ, le Messie. » Bon, c'est clair. Mais ça pose une question. Parce que si Jean n'est pas le Christ, qui est-il donc? Alors, s'il n'est pas le Christ, bon, verset 21, cherche un peu dans leur tête. Alors, peut-être tu es Élie. Non, je ne le suis pas. Le prophète, donc celui qui devait venir, et ici on fait référence à celui auquel Dieu a dit à Moïse, « Je susciterai parmi vos frères un prophète comme toi, ce sera Jésus. » Et donc Jean-Baptiste sait que ce n'est pas lui, non, non, non. Ils lui dirent, « Bah, ok, tu n'es pas Élie, les chefs religieux, du moins leurs envoyés. Tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas le Christ. Bah là, on est à court d'idées, on l'a cherché. Tu es qui alors ?» Et verset 22, « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ?» Et c'est là où Jean-Baptiste exprime sa mission, ce pourquoi il était là. Je suis, verset 23, la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean-Baptiste était celui qui préparait la venue du Messie. Jean-Baptiste était celui qui dirigeait, qui préparait, qui faisait tout pour que les gens viennent à Christ. Il avait bien compris sa mission. Face à ses interrogations ici, face à d'autres interrogations qu'il a eues, Jean-Baptiste aurait pu dire « Ah bah suivez-moi, je veux une grande foule qui me suit, moi. » Je veux les éloges des hommes. Je veux, entre guillemets, une grande église, si on le met à notre époque actuelle. Je veux un beau bâtiment. Je veux beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Je veux que ça bouge autour de moi. Je veux que ça vibre. Parce que c'est moi quand même, j'ai été établi par Dieu. Quand même, Dieu m'a appelé ici, alors. Et Jean dit, non, je ne peux pas me permettre de faire ça. Moi, je dirige les regards des gens vers Jésus. Et lorsque nous pensons à notre vie, il est vrai qu'ici en France, le terrain est dur, les cœurs sont souvent froids, comme on dit, les gens sont peu réceptifs, les gens parfois veulent discuter religion et autre chose, mais sans aller plus loin. Et à ce moment-là, nous pouvons être tentés de partir dans mille et une discussions qui peuvent être plus ou moins intéressantes et passer à côté de l'essentiel. Oublier ou ne pas oser mettre l'accent sur Jésus-Christ. Et par l'exemple de Jean ici, lorsque des personnes viennent nous poser la question, nous devons leur dire, voici ce que la Bible dit, non pas de moi, quelque part, moi je ne suis rien. Si ce n'est pour la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est important. Et c'est là où nous allons revenir au verset 16. Parce que, bien sûr, Jean dirige des personnes vers Jésus, mais au verset 16, il va dire quelque chose qui semble assez étonnant. Verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de qui ? Ben, de Jésus. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Donc, tout est grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et en lisant ceci, il est possible de se tromper sur un élément très important. Et gardons-nous de nous tromper là-dessus. Jean va dire, nous avons tous reçu de sa plénitude. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons faire dire de ce verset que tout le monde sera sauvé. Tous ont reçu la plénitude de Jésus-Christ. Hein? Possible que les gens se trompent en pensant cela. Ce n'est pas ce que dit ce verset, soyez convaincus de cela. Le salut passe par la foi personnelle en Jésus-Christ. Mais ici, dans ce verset 16, lorsque Jean va dire « Nous avons tous reçu de sa plénitude », Jean n'est pas en train de dire que tout le monde sera sauvé. Jean est en train de dire « Tous ont la possibilité d'être sauvés ». Et voilà pourquoi nous devons diriger les regards des gens vers Jésus. Parce que s'ils ne sont pas sauvés, ils ont besoin d'être sauvés. Ils sont perdus. Quelques chapitres plus loin, Jean va dire « La colère de Dieu demeure et déjà sur ceux qui ne croient pas encore. » Ils sont condamnés déjà. Ils vont passer l'éternité loin de Dieu à cause de leurs péchés si ils ne sont pas encore sauvés. Mais par ce verset 16, Jean annonce que tous ont la possibilité d'être sauvés. Et nous n'avons pas le droit, les personnes que nous rencontrons, nous n'avons pas le droit de dire « Ah, j'annonce pas le salut, je ne dirige pas les regards de ces gens vers Jésus pour X raisons. » À cause de leur nationalité, à cause de leur statut social, à cause de leur aspect. « Ah, je le trouve pas beau, alors voilà. » Ou « Là, je le trouve beau, oui, ce serait bien s'il s'ajoutait à l'église, alors je vais annoncer... voilà. » L'évangile, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il vienne à l'église, où lui, il est très riche. Alors là, s'il devenait membre de l'église, s'il commençait à donner sa dîme, alors là, ce serait formidable. Non, ce genre de réflexion, nous ne devons pas les avoir. Tous ont la possibilité d'être sauvés. Nous avons tous reçu de sa plénitude. La grâce de Dieu est offerte à tous. Et ça passe par nous qui sommes les instruments de Dieu qui annoncent cette grâce autour de nous. et de se poser la question, est-il possible, cela vous est-il déjà arrivé, de ne pas diriger les regards de quelqu'un vers Jésus pour le salut? Cela m'est déjà arrivé. C'est triste. Par la peur, manque d'expérience, pour X raisons, qui ne sont jamais valables, mais par lesquelles on essaie de se justifier, je n'ai pas toujours dirigé les regards vers Jésus pour le salut, pour les gens qui sont autour de moi. Et si nous sommes honnêtes, je pense que tous, nous pouvons le reconnaître. Mais Jean, ici, explique que Jésus doit être au centre. Que le salut, le plus grand besoin de l'homme, la plus triste réalité dans le monde aujourd'hui, c'est que des gens meurent et vont en enfer aujourd'hui. C'est la plus triste réalité. Au-delà des tempêtes qui pourraient arriver, au-delà des attentats terroristes qui arrivent, au-delà du changement climatique, au-delà de guerres qui pourraient s'annoncer, la plus triste réalité aujourd'hui, c'est que les gens meurent sans Christ aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous faisons pour diriger les regards de ceux qui nous entourent vers Jésus? Ou est-ce que nous dirigeons les regards peut-être vers nous, vers nos centres d'intérêt, seulement vers le travail, vers X? Lorsque nous nous remettons en question, nous comprenons que nous avons encore des progrès à faire, n'est-ce pas? Et dans le verset 18, Jean va annoncer l'espoir, l'espérance qui est là. Parce que comment pourrions-nous faire cela? Les gens sont résistants. Les gens sont hostiles, parfois, n'est-ce pas? Parfois, on a la porte claquée au nez. Parfois, les gens refusent lorsque nous allons distribuer des traités. Parfois, les gens y refusent. Lorsque nous allons faire des sondages, parfois, les gens disent « Ah non, ça ne m'intéresse pas. » Mais au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Là, sur la terre. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père. Et qu'est-ce que j'en dis tout de suite après? Ça pourrait être un peu le désespoir. Dieu, il est tellement au-dessus de nous, il est tellement grand, on ne l'a jamais vu, on accepte par la foi, mais bon, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Par contre, gloire à Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus, en venant sur la terre, nous montre Dieu. Et en lisant ce verset, j'étais tellement encouragé, parce que Dieu se révèle à nous, si nous sommes sauvés, et Dieu nous permet, par Jésus-Christ, lorsque nous l'annonçons, de révéler Dieu à ceux qui nous entourent. Si Jésus-Christ n'était pas venu, nous pourrions parler de Dieu autant que nous voudrions. Ce serait extrêmement difficile. Peut-être les gens se tourneraient vers Dieu et Dieu trouverait d'autres moyens de les sauver, mais voilà, nous n'avons pas besoin de faire cela parce que Jésus-Christ est venu. Et c'est lui que nous annonçons. Nous n'annonçons pas simplement un Dieu lointain, au-dessus de tout, qui se trouve dans des pages d'un livre ancien qui vient de on ne sait où. Non. Nous annonçons le Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ. Et en lisant ce verset, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce verset de Jean, chapitre 14. Nous n'allons pas prendre le temps d'aller chercher ce verset. Mais vers la fin de son ministère, Jésus se rassemble avec ses disciples dans la chambre haute. Et c'est Philippe qui lui pose, qui dit, après que Jésus a fait un long discours sur le Père, Philippe dit, « Seigneur, Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Là, je lis ce verset. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et qu'est-ce que Jésus répond à Philippe ? Mais Philippe, tu n'as rien compris ? Philippe ! Et je me mets à la place de Jésus. Qu'est-ce qu'il devait être frustré par moment avec ses disciples ? Philippe, n'as-tu pas compris ? Celui qui me voit moi, voit le Père. Philippe se dit, mais je veux voir le Père. Et Jésus c'est comme si Jésus lui dit, mais tu le vois. Regarde-moi et tu le vois. Et lorsque nous comprenons que Jésus est celui qui révèle le Père, que Jésus s'est révélé à nous et que nous avons cette possibilité de diriger les regards des autres vers Jésus, qui est Dieu, quelle espérance extraordinaire. Parce que si je dirige les regards des personnes vers moi, bah, peut-être ils vont comprendre. Peut-être ils vont accepter. Si je dirige les regards des gens vers telle ou telle église, vers tel ou tel groupe, vers telle ou telle croyance, à ce moment-là, peut-être ça va marcher, mais peut-être pas. Mais si je dirige les regards des personnes vers Jésus-Christ en disant bah, « Jésus est et il doit être au centre. » Regardez Jésus. Et tout ce que nous faisons est pour Jésus, parce qu'il s'est révélé à moi. À ce moment-là, nous avons l'assurance que Dieu va travailler dans le cœur de cette personne. Nous avons l'assurance que finalement nous annonçons Dieu. Et c'est lui qui se fait connaître. Et Jean-Baptiste, il avait bien compris cela. Jean-Baptiste a compris que sa mission était de diriger les gens vers Jésus-Christ. Et cela va l'emmener à faire quelque chose qui, parce que nous connaissons l'histoire, nous semble assez normal, mais qui devait être quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Alors, lorsque nous regardons à partir de verset 35, parce que lorsque nous dirigeons les gens vers Jésus, qu'est-ce qui va se passer ? Verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Alors, André était l'un de ses disciples, comme nous apprennent les versets qui suivent. Mais deux disciples de Jean étaient là. Et Jean, il va voir Jésus qui passe. Et il va dire, voilà l'agneau de Dieu. Alors, il reprend ce qu'il avait dit au verset 29. Voilà l'agneau de Dieu. Et là, verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. J'essaie de me mettre à la place de Jean, là, n'est-ce pas ? J'ai toute cette foule qui me suit, qui m'écoute. J'ai même mes propres disciples, les gens qui veulent apprendre de moi. Et là, Jésus arrive. Et lui, il bouleverse tout. Parce que maintenant, mes disciples, les gens qui suivaient moi, les gens qui apprenaient de moi, ben, maintenant, ils vont suivre Jésus. Et moi, j'ai moins de monde autour de moi. Et Jean, un être humain comme les autres, je me demande si la pensée ne lui est pas venue dans l'esprit. Ah oh, mince alors. Ah oh, mais maintenant j'ai deux de moins. Et si ces deux partent, bah, peut-être il y aura d'autres qui partent. Et si d'autres partent, bah, ça va entraîner peut-être d'autres. Et à la fin, moi je risque de ne plus avoir personne autour de moi. Mais pour Jean, ce n'était pas un problème. Parce qu'il savait que son but n'était pas d'attirer les gens vers son enseignement à lui. Aussi fidèle qu'était son enseignement. Son enseignement était fidèle, son enseignement était juste, et son enseignement, c'était ce que les gens devaient entendre à ce moment-là. Mais Jean n'était pas censé garder ces personnes pour lui. Non. Il était censé les diriger vers Jésus-Christ. Et si cela impliquait que ces personnes partent pour suivre Jésus-Christ là où il allait, Jean a dit, pas de problème, je les laisse partir. non pas partir n'importe comment, non pas partir n'importe où, non pas retourner à leur travail peut-être qu'ils avaient auparavant, ou partir faire la fête, ou que sais-je encore. Mais ses disciples partaient suivre Jésus. Et pour nous, aujourd'hui, Jésus est déjà venu. Aujourd'hui, dans ce lieu, nous nous rassemblons autour de Jésus. Du moins, j'espère que c'est dans cette optique que vous êtes, la parole, Jésus-Christ, au centre. Mais notre Église a eu, à travers les années, cette expérience où des personnes, pour différentes raisons, sont parties. Un peu partout en France, même à l'étranger. Et à ce moment-là, bien sûr, il est triste, parce que lorsque les gens partent, c'est triste. Mais lorsque ces personnes partent parce que Dieu les appelle à un autre endroit, finalement, ça doit être un sujet de joie. Pourquoi ? Parce que Dieu les appelle pour accomplir un ministère là où il va les placer. Et vouloir garder un maximum de gens pour remplir les sièges aujourd'hui dans ce lieu, au lieu de permettre à ceux que Dieu appelle de partir, si toutefois il appelle à partir, serait mauvais. Vouloir absolument que chaque chaise dans cette salle soit remplie, coûte que coûte, on se trompe d'objectif. On ne dirige pas les regards des gens vers Jésus, on les dirige sur notre bâtiment et sur notre ministère à nous. Mais si nous avons la perspective que nous dirigeons les regards des gens vers Jésus, lorsque Dieu appelle certains, et peut-être il le fera, lorsqu'il appelle certains à partir ailleurs pour X raisons, nous devons les laisser partir. Jean, lui, n'a pas fait les pieds et les mains en disant mais Jésus, que tu es tes propres disciples, ne pique pas les miens. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais j'accomplis mon travail là et tu me piques des disciples, mais il n'y a pas assez de monde là, tu ne peux pas puiser ailleurs. Non, ces deux disciples entendent que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est celui qui a été promis. Il est le Fils de Dieu. Et ces personnes partent et suivent Jésus. Et quittent Jean. Jean ne s'en plaint pas en disant « Pauvre moi, deux disciples de moi, qu'est-ce que j'aurais aimé les garder, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Non. Il dit « Je continue de diriger les regards des gens vers Jésus. Jésus. Les inconvertis, parce que sans Jésus, ils seront perdus à jamais. Et même ceux qui sont déjà engagés, parce que ces disciples de Jean, s'ils étaient avec Jean, si c'était ses disciples, le suivaient, apprenaient de lui, et c'était des gens engagés. André, on sait qui c'était, on va parler de lui, Dieu voulant, la semaine prochaine. C'était quelqu'un qui agissait. Donc des personnes déjà engagées, et Jean continue de diriger ses regards vers Jésus. Et aujourd'hui, dans notre Église, ici à Vernon, 21e siècle, quelle est notre optique? Qu'est-ce que nous faisons? Voulons-nous à tout prix garder un maximum de personnes ici? Est-ce que notre regard est sur nous-mêmes, sur le nom Église biblique baptiste de Vernon, pour que nous soyons connus, pour que les gens viennent voir notre beau bâtiment, et on loue Dieu pour ce bâtiment, rien de mal à ça, mais est-ce que nous attirons les gens par notre bâtiment, par nos chants, par tout ce que nous faisons? Faut que ce lieu soit accueillant, agréable, bien sûr. Ne comprenez pas autre chose. Mais est-ce que c'est le plus important? Ou est-ce que lorsque les gens entendent parler de ce lieu, lorsque les gens viennent, est-ce qu'ils comprennent que Jésus est au centre? Et au-delà de ce bâtiment-ci, chez vous, chez moi. Lorsque les gens viennent chez nous, est-ce qu'ils comprennent que Jésus est au centre? Lorsque les gens passent la porte de notre maison, quand ils sont même devant, lorsqu'ils nous côtoient, est-ce qu'ils peuvent comprendre, est-ce qu'ils entendent de notre bouche, est-ce qu'ils voient dans nos actions que nous les dirigeons vers Jésus? Ou sommes-nous coupables, malheureusement, de diriger les gens vers des rites religieux, vers un ensemble de obligations et interdits dans une structure bien précise, au lieu de diriger vers Jésus? Si on devait arriver de façon impromptue chez vous, est-ce qu'on se rendrait compte sur le coup, immédiatement ou assez rapidement, que c'est un foyer chrétien? Si toutefois vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur. Lorsque les gens venaient vers Jean, il n'y avait aucune hésitation, il n'y avait aucune ambiguïté, on savait tout de suite, c'est vers Jésus qu'il faut regarder. Ce n'était pas vers Jean. Et lorsque les gens nous côtoient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Cela va peut-être nous coûter. Cela sera peut-être mal compris. Les chefs religieux, leurs envoyés, rien compris. La plupart des gens qui suivaient Jean n'ont pas compris grand-chose. Et pourtant, Jean continuait. Il dirigeait. Il disait, c'est Jésus. C'est Jésus. Et nous, aujourd'hui, est-ce que c'est aussi manifeste, est-ce que c'est aussi clair que nous dirigeons les regards des gens vers Jésus? Des personnes autour de nous, c'est vers Jésus. Il est le Sauveur. Il est celui qui nous aide au jour le jour. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas juste une bonne volonté, un caractère fort. Non, c'est Jésus qui est là, qui nous soutient. Alors nous avons la possibilité devant nous cette semaine, une nouvelle semaine. Il y aura des difficultés. Il y aura des occasions, soit de nous apitoyer sur nous-mêmes, soit de diriger les gens à nous regarder, ou bien il y aura des occasions de diriger les gens vers Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons prendre la décision déjà aujourd'hui de dire, Seigneur, par ta grâce, je veux être comme Jean-Baptiste. Je veux, tout comme lui, diriger vers Jésus avec tout dans ma vie. Coûte que coûte, je veux que toi, tu sois au centre. Mais pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ça ne vient pas tout seul. Non. Nous avons besoin de l'aide de Dieu et cette aide, nous la demandons dans la prière. Et c'est ce que nous allons faire, quelques instants de prière silencieuse, chacun devant Dieu. Et puis je terminerai en priant. Passons quelques instants dans le silence. Oui Seigneur, nous venons vers toi parce que nous savons que tu es présent, tu entends, tu veux accomplir ta volonté dans notre vie, tu veux nous aider. Ta puissance est disponible. Tu veux nous soutenir chaque jour. Et nous demandons ton aide. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et nous implorons ton soutien, ton pouvoir pour aujourd'hui, pour cette semaine qui est devant nous. Tu sais les obstacles qui seront devant nous. Tu connais déjà les occasions que nous aurons pour te mettre en avant, pour diriger les regards de ceux qui nous entourent vers toi. Aide-nous, Seigneur, que nous ne passions pas à côté des occasions, qu'il soit évident pour tous ceux qui nous entourent que toi, déjà, tu es au centre de notre vie et que nous aidons ceux qui nous entourent à faire de même. Tu es puissant, c'est ce que tu veux faire dans notre vie et Seigneur, nous te louons d'avance parce que tu agiras. Nous te demandons et tu le feras. Et que ainsi, toute l'honneur, toute la gloire te reviennent parce que tu es grand, parce que tu es puissant. C'est en ton nom que nous prions. Amen.